est-elle suffisante? La réaction de l'Europe face à la Biélorussie. Les 27 réunis en sommet hier soir à Bruxelles ont décidé de prendre des sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko après le détournement d'un avion et l'arrestation d'un journaliste indépendant avant-hier. Bonjour Thomas Gomard.
Bonjour Mathieu Munoz.
Vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Avant de regarder en détail les mesures, d'abord un mot sur la rapidité de la réaction européenne. C'est allé relativement vite, ça vous surprend?
Oui et non, c'est-à-dire que l'Union européenne est souvent effectivement critiquée pour le temps de discussion avant d'aboutir à des décisions. Maintenant, le fait de détourner un avion est quand même quelque chose de tout à fait inhabituel. Et il se trouve que ça correspondait aussi avec un Conseil européen et que donc la manière de réagir, à mon avis, s'explique. Enfin, la rapidité de la réaction s'explique aussi par la nature de ce qui s'est passé, qui est tout à fait encore une fois inhabituel. Donc je pense aussi que on est dans une situation avec la Biélorussie qui s'est beaucoup dégradée depuis l'été 2020.
Depuis la réélection de Loukachenko.
Voilà, depuis la réaction, puisque l'Union européenne considère que cette réélection c'est pas faite selon les règles et au fond ne reconnaît pas les résultats de la dernière élection présidentielle. Je rappelle que c'était la sixième fois que le président Loukachenko se présentait. Et donc voilà, il y a une sorte d'unanimité très rapide. Maintenant, la question que ça pose, c'est est-ce qu'elle est tenable sur la durée et surtout quel type d'effet cette décision va-t-elle produire?
Oui, parce qu'il y a déjà eu des sanctions prises à l'automne dernier, en octobre, en novembre, en décembre. Il y a déjà eu trois trains de mesures prises par l'Union européenne. Visiblement, le régime de Loukachenko s'en fiche complètement.
En fait, c'est même plus compliqué que ça, si vous voulez. C'est-à-dire que le régime de Loukachenko, le président Loukachenko a été élu pour la première fois en 1994, donc il y a 27 ans. Et il a d'emblée fait l'objet de sanctions de l'Union européenne. Enfin, à l'époque, c'était pas l'Union européenne, d'ailleurs. Je vais pas toutes les rappeler, mais je vais peut-être revenir sur un élément important, c'est que il y a eu en 98 déjà un train de sanctions. Il y en a eu ensuite en 2011. Et en fait, le paradoxe, c'est que la Biélorussie est un pays qui a réussi à faire lever les sanctions contre elle en 2016, donc assez récemment. Pour la raison suivante, c'est que c'était le médiateur entre la Russie et l'Ukraine. On a parlé des accords de Minsk qui étaient mis en œuvre par, vous en souvenez probablement, la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Et donc c'est un pays qui s'est rapproché en fait de l'Union européenne, je dirais, après 2015. Et puis, à la faveur de la dernière campagne présidentielle, à nouveau, des sanctions ont été prises pour sanctionner le régime de Loukachenko et son entourage immédiat.
Alors là, hier soir, l'Europe a décidé donc de nouvelles mesures et notamment de fermer son espace aérien à la Biélorussie. Elle demande également aux compagnies aériennes européennes de ne plus survoler ce pays. Vous pensez que ça, c'est de nature à pouvoir faire plier la Biélorussie, ça?
En fait, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par faire plier la Biélorussie. C'est-à-dire que
l'Europe veut obtenir la libération de ce journaliste indépendant. Est-ce que c'est de nature à aboutir?
C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe prend des sanctions dans le domaine aérien parce que ce qui s'est passé concerne un avion, en fait.
Bien sûr.
Pour faire très simple. Maintenant, le paradoxe, si vous voulez, c'est que ces sanctions ont été demandées par l'opposition au président Loukachenko et notamment par Mme Tikhanovskaya qui est exilée depuis plusieurs mois. Est-ce que ça va faire plier? Très franchement, je suis incapable de répondre à cette question ce matin. C'est-à-dire que on le voit, le régime de Loukachenko, je le rappelais, est en place depuis 1994 et a toujours su résister d'une certaine manière par son organisation à des sanctions prises par l'Union européenne. Le paradoxe, c'est qu'en même temps, vous avez une partie de l'opposition, vous avez l'opposition de Biélorussie qui demande le maximum d'échanges. C'est-à-dire qu'au fond, ça va un peu plus accentuer l'isolement du pays et d'une opposition qui, en Biélorussie, pour celle qui n'est pas en exil, est extrêmement, très sévèrement réprimée depuis cet été. Ce qui s'est mis en place depuis cet été sont des arrestations très systématiques, des emprisonnements, des licenciements, là aussi très systématiques, pour casser en fait les reins de l'opposition. Donc vous avez une lecture qui consiste à dire ça va galvaniser cette opposition qui, depuis au fond cet été, prend des coups. Ça, c'est la lecture, je dirais, quand on est à l'extérieur. Mais très franchement, je pense que c'est extrêmement difficile à anticiper aujourd'hui.
La clé de tout, c'est quoi? C'est Moscou, c'est le grand frère russe qui soutient le régime de Minsk?
Là aussi, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a cette vision-là. La relation entre la Biélorussie et la Russie est une relation extrêmement ambivalente. C'est-à-dire que là aussi, depuis cet été, à plusieurs reprises, le président Loukachenko a inventé des problèmes avec Moscou, des formes de disant que Moscou allait intervenir dans le pays pour essayer de mobiliser sa population. En même temps, au regard de son isolement, effectivement, les liens qu'il a aujourd'hui avec des pays étrangers, c'est principalement avec Moscou. Il y a eu plusieurs voyages de Loukachenko en Russie qui ont mis en scène cette sorte de dépendance, mais c'est une dépendance là aussi qu'il faut pas voir comme un alignement, c'est-à-dire que la personnalité du président Loukachenko d'une part et d'autre part l'orientation qu'il a donnée à son pays depuis 1994 en font un personnage très qui est en train de réprimer très fortement, complètement arc-bouté sur son pouvoir. C'est certain que Moscou peut d'une certaine manière influencer les choses, mais je ne ferai pas, si vous voulez, un lien immédiat entre la situation à Minsk et ce que pense Moscou, même si évidemment on a noté que dans les déclarations notamment de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, il y a une volonté d'avoir une ligne de lecture très différente de celle des Européens.
Et les deux dirigeants, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, ils s'entendent bien ? Ils sont sur la même longueur d'onde ?
Je dirais pas qu'ils s'entendent bien. Je dirais pas qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils sont, si vous voulez, dans une situation où vous avez la Biélorussie et la Russie depuis 1997 sont dans une sorte de confédération, ce qui avait été créé par la Russie pour offrir une option supplémentaire éventuellement au président russe pour pouvoir se représenter en 2000. Maintenant, la Biélorussie ne s'est jamais complètement alignée. C'est ça le paradoxe, c'est que c'est un petit pays au sens de ses ressources, de son positionnement international, et qui, par rapport à Moscou, a souvent trouvé une tonalité un peu différente. Il y a aussi une forme d'exaspération parfois à Moscou sur le comportement du président Loukachenko, et en même temps la contestation qui a grandi depuis cet été est vue à Moscou comme au fond une possibilité de ce qu'on appelle les révolutions de couleur, en comparaison de ce qui a pu se passer jadis en Ukraine ou en Géorgie par exemple.
Merci Thomas Gomard pour vos explications très précises. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut français des relations internationales et je renvoie nos auditeurs à votre dernier livre qui est paru en début d'année et qui s'appelle « Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques » paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup. France Inter.